Il est 14h03, vous écoutez France Inter, tout de suite 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et bonjour à tous, aujourd'hui avec Odon Vallée, l'héritage des premières religions.
Si nous pouvions lire les écritures des diverses religions, nous nous apercevrions qu'elles sont, à la base, identiques et se complètent à merveille. Gandhi.
D'histoire. Plus encore que par le langage, le rire, l'écriture ou la fabrication de l'outil, c'est peut-être d'abord par sa croyance dans le surnaturel que l'homme a commencé à se distinguer de l'animal. En enterrant ses morts il y a plus de 100 000 ans et en plaçant dans leur tombe des objets précieux et de la nourriture, l'homme de Néandertal était le premier à manifester sa croyance en l'au-delà. Et il inventait un rituel que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les religions du monde. Plus de 1000 siècles après cette première manifestation d'un sentiment religieux, les hommes continuent de célébrer les moments importants de leur vie, la naissance, la puberté et la mort. Ils continuent de faire des sacrifices et d'entretenir avec la nature et les animaux des rapports comparables à ceux que recommandent encore les derniers survivants des religions premières.
Quand Canaanlouk était en colère, les chasseurs revenaient les mains vides.
Le peuple mourait de faim. Un homme a dû plonger jusqu'au fond de la mer pour parler à Canaanlouk, pour le convaincre de relâcher les phoques.
Et de sauver son peuple.
Il devint le premier chaman.
Pour être chaman, il faut mourir et revenir à la vie. Mon frère, l'homme blanc, le sait. L'homme qu'il appelle Dieu est mort et puis il est revenu à la vie. Et maintenant, ils boivent son sang et ils mangent sa chair tous les dimanches.
Odon Vallée, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre dernier livre, L'héritage des religions premières, vous montrez un peu, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film, tous les liens qui existent entre les premières religions, comme le chamanisme, et puis les grandes religions d'aujourd'hui, qui se distinguent bien sûr par leurs rituels, par le nom de leur dieu, mais qui ont des racines communes et des racines qui remontent au fond à l'apparition, aux premières religions. De quand d'ailleurs peut-on dire qu'apparaît le sentiment religieux dans l'histoire de l'humanité?
Alors, on ne connaît pas la date exacte. On a commencé cette émission par une citation de Gandhi, le grand sage indien. Gandhi qui testait sa chasteté en mettant des jeunes filles dans son lit. Messieurs, ne faites pas comme ça. Mais ne succombez pas à la tentation. Mais ce que voulait dire au fond Gandhi, c'est que tout homme est fait de désir, éros, et tout homme va à la mort thanatos. Freud a montré que notre vie s'écoulait entre le désir et la mort, éros et thanatos. Et les religions premières sont nées précisément de ce double antagonisme. C'est-à-dire que d'une part, nous nous demandons, comme les petits-enfants, où vont les défunts après leur mort. Et d'autre part, d'où viennent les bébés avant la naissance. Donc on pense que les deux premières questions, c'est la mort et la naissance. La question de la mort, elle est déjà repérée dans les premières inhumations intentionnelles 100 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a relevées en Russie du Sud ou en Israël, en Galilée, près de Nazareth d'ailleurs. On a fait récemment une découverte en Espagne qui reculerait ces inhumations intentionnelles à moins 300 000 ans, mais c'est encore sujet à caution. Inhumation intentionnelle, c'est-à-dire qu'on dépose les défunts sous terre avec des objets, des offrandes, dans une position spécialement étudiée qui montre qu'on se soucie de l'après-vie, de l'au-delà, même si on n'est pas du tout certain qu'il y ait une vie éternelle.
Ça, c'est là donc la première manifestation au fond d'une religion, c'est ce que vous dites dans votre livre, Odon Vallée, hein, le culte des morts. À quoi ça correspond d'ailleurs ce besoin d'enterrer les morts, de les mettre même sous des dalles assez lourdes dans les premières religions? Ça correspond à quoi? À éviter les profanations, à empêcher le retour aussi des morts?
Alors, exactement. Quand un mort est sous la terre, il n'est pas dessus, il est localisé. Il ne viendra plus nous déranger comme un fantôme écossais, Mais les fantômes sont de toutes les civilisations. En Chine aussi, il y a une journée des morts qui a pour but d'éviter que les esprits des défunts ne viennent s'en prendre à nous. Quand on dit à un enfant, va voir où ton grand-père est enterré, va déposer un chrysanthème et les Toussaint, ça veut dire ton grand-père, il est là et il n'est pas ailleurs. Tu vas penser à lui, peut-être tu vas prier pour lui. Mais ensuite, il ne va pas te tourmenter dans la vie. Il n'y a rien de pire qu'un mort qui vient se venger auprès des vivants. On voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, au Mexique catholique, des gens qui vont pique-niquer sur la tombe des morts, qui vont partager un repas avec le défunt, comme pour lui dire, écoute, grand-père, grand-mère, nous sommes aujourd'hui autour de toi, comme tu étais avec nous autour de la table familiale. Et ce que font les chrétiens, les catholiques à la messe autour de la table du Seigneur, c'est le repas de la mémoire. Car nous savons que si nous oublions les défunts, il y a un risque qu'ils viennent nous gêner. Ce qu'on appelle le trou généalogique, disent les psychanalystes. Il faut rendre hommage aux morts pour qu'ils soient satisfaits.
Alors vous, culte contemporain de celui des morts, au Don Valais, il y a aussi celui de la naissance, qui reste d'ailleurs un mystère. Pour les religions premières, on ne savait pas très bien comment naissaient les enfants, mais il y a tout un culte autour, il y a celui des déesses-mères, par exemple.
Alors, on ne sait pas au juste de quand date ce culte de la naissance ou de la fécondité. En l'absence d'écriture, c'est évidemment très difficile à dater. On a effectivement des statues dites de déesses-mères ou de femmes calipiges, c'est-à-dire de femmes avec des grosses et belles fesses, car à l'époque, des belles fesses étaient forcément grosses, avec des gros
Vénus,
seins.
Oui.
On les appelle Vénus, mais ça n'a rien à voir avec nos mannequins
de Botticelli. Oui.
Mais ça a à voir avec les femmes de Botero, par exemple. Ce sont des femmes qui ont des triangles pubiens très dessinés. Notre lettre D, le delta grec, vient du triangle pubien féminin. Ce sont probablement des cultes de la fécondité, mais nous n'en sommes pas tout à fait certains. Il est possible que ces cultes aient été pratiqués un peu partout dans le monde de manière indépendante, sans qu'on sache très bien d'ailleurs quel était le mécanisme de la naissance, car la notion de sperme fécondant est relativement récente dans certaines civilisations. Rappelons que chez les Na du Yunnan, en Chine du Sud, ou chez les trop brillants de Nouvelle-Guinée, on pense que l'enfant est la réunion de l'esprit de l'oncle maternel et du ventre féminin, et que donc le père biologique ne joue aucun rôle dans cette conception.
Alors, autre moment au Don Valais important de la vie célébré par les religions et les religions premières, c'est le passage à la puberté, hein, qui se fait par une espèce d'initiation dont vous parlez beaucoup, la circoncision, encore pratiquée aujourd'hui dans plusieurs religions. Écoutez ce reportage de Régis Biotta en pays d'Ogon, au Mali, en 1998.
Nous sommes sur le site du rituel de la circoncision. Donc c'est ici, que c'est sur cette pierre que s'assoit le Ogon, qui est le chef spirituel, et le circoncis, l'enfant circoncis s'assied sur cette pierre-là. Alors là, vous voyez la tache noire que vous voyez, ça c'est parce qu'après la circoncision, il y a du sang, et en plus, il y a le produit qu'on met pour sécher un peu la plaie. Donc ce produit est constitué par des substances végétales.
C'est un lieu de souffrance quand même.
C'est effectivement un lieu de souffrance, mais cela a sa signification, parce que la circoncision en elle-même prépare l'enfant à la virilité. Donc pour vraiment mériter de vivre dans cette société, il faut souffrir. Et la circoncision est un aspect de la préparation de l'enfant à sa vie adulte.
Alors c'était la circoncision en pays d'Ogon, aujourd'hui au Don Valais. À quoi ça correspond justement, on a entendu, c'est préparer l'enfant à la virilité, à la vie adulte.
Alors c'est très compliqué la circoncision. Dans mon amphithéâtre de la faculté de médecine Xavier Bichat, j'ai des jeunes étudiantes musulmanes voilées, des jeunes étudiants juifs en kippa, j'ai toutes les religions et civilisations. Et le cours qui les intéresse le plus, c'est le cours sur la circoncision. Ça réconcilie tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la circoncision est quelque chose de très ancien et de très compliqué. Par exemple, chez les Juifs, la circoncision est à l'âge de 8 jours. en commémoration de celle d'Abraham, qui a été circoncis à l'âge de 90 ans, et c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Il est probable que les Juifs tenaient la circoncision des Égyptiens, où les prêtres et les nobles étaient circoncis non pas à l'âge de 8 jours, mais à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire à l'âge prépubertaire. Les Égyptiens tenaient la circoncision sans doute de l'Afrique subsaharienne. Alors, la circoncision des garçons à l'âge prépubertaire est effectivement une initiation virile, comme on l'a très bien rappelé. Pourquoi ? Parce que le prépuce est considéré comme un fourreau, tel un vagin, et donc il est féminisant pour le garçon. A l'inverse, le clitoris est considéré comme virilisant pour les femmes, c'est la raison notamment de l'excision. Il s'agit bien entendu d'un faux parallèle anatomique entre l'excision et la circoncision, puisque l'excision féminine est une mutilation et la circoncision n'est pas une mutilation. Mais il se trouve que dans ces civilisations premières, on circoncit les garçons, probablement pour qu'ils soient plus virils, mais aussi pour des motifs d'hygiène. Par exemple, en raison du risque de phimosis, c'est-à-dire de prépuce trop étroit, que les chirurgiens grecs d'ailleurs opéraient déjà, et puis pour éviter probablement un certain nombre d'infections masculines. Alors, cette dimension hygiénique de la circoncision se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, où 70% des enfants sont circoncis, quelle que soit leur religion. Il est très probable qu'il y a eu au départ, entre un certain nombre de religions et la médecine, une sorte de connivence. La médecine était elle-même religieuse et la religion était elle-même médicale. De la même façon que les chirurgiens grecs du sanctuaire d'Épidaure pratiquaient la circoncision en cas de phimosis avec des bistouris que l'on expose encore au musée d'Épidaure, de même des juifs prêtres pouvaient pratiquer cette circoncision.
Et c'est étonnant ce que vous dites, d'ailleurs tout au long de votre livre, on s'en rend compte, Don Valet, des religions, des civilisations qui sont sans contact du tout les unes avec les autres, pratiquent les mêmes rituels. Ça c'est quand même curieux, elles ne l'ont pas apprises les unes par rapport aux autres puisqu'elles ne se connaissaient pas, n'avaient pas de contact.
Tout à fait, ils pratiquent les mêmes rituels mais avec des sens différents. Prenons la circoncision, pour les juifs c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Pour les musulmans, c'est le signe de rien du tout sur le plan religieux. C'est une tradition hygiénique. On pourrait multiplier les exemples. Il y a des tas de civilisations dans lesquelles on se plonge dans l'eau, mais le fait de se baigner dans l'eau du Gange n'a pas la même signification pour un hindou que le fait pour un chrétien d'être baptisé, même s'il s'agit toujours de se plonger dans l'eau.
Alors il y a donc un point commun malgré tout. Alors autre point commun de toutes les religions, vous le dites au Don Valet, qui apparaît d'ailleurs aussi en même temps que le sentiment religieux, c'est le sacrifice, l'exigence du sacrifice. C'est tout un chapitre que vous consacrez justement au sacrifice dans toutes les religions.
Oui, dans toutes les religions, mais le sacrifice est quelque chose de très ambigu. D'abord, on remarque qu'il y a toujours un lien entre le sacré et le honteux. D'ailleurs, le vocabulaire de l'anatomie donne les mêmes noms à des régions du corps très voisines, tantôt sacrées, tantôt honteuses. Par exemple, le grand nerf honteux qui se trouve à côté des vertèbres sacrées, le ligament utéro-sacré qui se trouve à côté du nerf honteux dans les organes génitaux féminins, etc.
Le sacrum.
Mmh. Il y a toujours entre les zones de la génération et de l'excrétion une sorte de confusion volontaire entretenue par le vocabulaire de l'anatomie. Et le sacré engendre le sacrifice. C'est-à-dire que d'une manière, le sacrifice est une privation de plaisir voulu par Dieu pour probablement éviter le honteux. C'est-à-dire que derrière le sacrifice, il y a un sentiment de culpabilité.
Alors, le sacrifice. Alors ça, c'est le sacrifice expiatoire. Bon. Que vous opposez au sacrifice propitiatoire, on sacrifie pour obtenir quelque chose.
Voilà. On sacrifie pour demander les pluies sur l'herbe ou le soleil, sur les récoltes,
c'est
la prière de demande. C'est les Aztèques notamment. Mais vous savez, il y avait des sacrifices propitiatoires, il n'y a pas si longtemps dans la France catholique, en cas de sécheresse prolongée ou au contraire de pluie trop violente. Le sacrifice est quelque chose de très complexe qui peut engendrer beaucoup d'erreurs. Par exemple, on sacrifiait les prisonniers, c'était un bon moyen de s'en débarrasser que de les offrir aux dieux. Chez les Aztèques, on disait que c'était pour faire tourner le soleil, bon prétexte. Par contre, chez les Incas, on sacrifiait ce qu'on avait de plus cher, c'est-à-dire les plus belles jeunes filles. Les plus belles jeunes filles. Ici, elle s'appelle Fanny, notre plus belle jeune fille. On ne va pas la sacrifier, c'est promis. Non, non. Mais pitié. Chez les Incas, les plus belles jeunes filles étaient sacrifiées. On a d'ailleurs retrouvé des momies bien conservées à 6000 mètres d'altitude parce qu'on pensait que le sacrifice des jeunes filles allait réconcilier le peuple avec les divinités. Donc, il y a autour d'un même sacrifice humain des significations totalement opposées.
On pouvait même sacrifier, ou en tout cas, Dieu pouvait même demander à quelqu'un de sacrifier ses enfants. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham.
Abraham. Oui, Seigneur. Prends ton fils, ton unique fils, Isaac, que tu chéris, et va-t'en au pays de Moria, où tu me sacrifieras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai.
Voudrais-tu? Voudrais-tu donc, Seigneur, que je fasse comme les Cananéens qui brûlaient leur premier-né devant des idoles?
Est-ce bien toi, le Seigneur, mon Dieu?
Tu le sais.
Non! Non!
Alors ça, c'est tiré du film de John Ford, de la Bible. D'après la Bible, d'ailleurs, c'est le sacrifice demandé par Dieu à Abraham. On sait que Isaac ne sera pas sacrifié et que c'est un bélier qui sera sacrifié. D'ailleurs, d'où le nom de bouc émissaire, vous le dites, au Don Valais. Mais c'est assez extraordinaire ce que Dieu demande. Bon, le sacrifice a été supprimé. Les Juifs ont fait disparaître le sacrifice des animaux, hein, puisqu'il a succédé à celui des hommes. Mais vous dites, au fond, qu'il y a un lien entre le sacrifice et le clergé des religions. Les prêtres étaient d'abord des sacrifices. Si bien qu'il n'y en a pas dans les religions qui ne demandent pas de sacrifice.
Oui, absolument. Le bouddhisme n'a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prêtres, mais seulement des moines. De même, chez les protestants, les pasteurs ne sont pas des prêtres parce que la messe n'est pas un sacrifice. Chez les juifs, il y a eu des prêtres, des kohanim jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ, tant qu'il y avait un temple où on sacrifiait des animaux. Depuis, il n'y a plus de prêtres dans le judaïsme puisque les rabbins sont des maîtres de prière, mais pas des prêtres.
Mais vous dites qu'il n'y a plus de sacrifice dans l'islam. Et le sacrifice des moutons après la
Ramadan. La fête du mouton n'a pas de signification religieuse dans l'islam, en ce sens que ce n'est pas un sacrement. C'est une commémoration du sacrifice, non pas d'Isaac, mais d'Ismaël, qui est le demi-frère d'Isaac, et que Abraham aurait dû sacrifier, et qu'en définitive, il n'a pas sacrifié en lui préférant le bélier. Le mouton est donc un bélier moins cher. Hein. Mais dans l'islam, il n'y a pas non plus de sacrifice religieux, j'ai bien dit, et donc pas de prêtres. Les imams sont des hommes de prière et pas des prêtres. D'ailleurs, c'est intéressant.
Mais pourquoi y a-t-il des prêtres dans le christianisme, justement,
bah, le catholicisme, parce que Jésus est prêtre uniquement d'après l'épître aux Hébreux de saint Paul, d'ailleurs, puisque le sacrifice de Jésus sur la croix est un don de lui-même, un don sanglant de lui-même. Et la messe est le sacrifice non sanglant qui commémore ce don de Jésus pour racheter le monde. Alors, il est probable que dans le sacrifice du bélier par Abraham, il y a un côté culpabilité, réconciliation avec Dieu, mais ceci
est mis à l'épreuve, surtout d'Abraham.
Mis à l'épreuve, mais en même temps, on peut dire qu'aujourd'hui, on a des formes de sacrifice intérieures qui sont non sanglantes. Hein. D'une certaine manière, quand on va se confesser, par exemple chez les catholiques, le prêtre va vous donner une pénitence à faire, ou une petite pénitence, mais qui est une forme de sacrifice. Et votre saint patron, Patrice, qui était Patrick, le patron de l'Irlande, a importé en Europe la confession individuelle. Ouais. Ce sont les moines irlandais qui ont importé cette pratique sur le continent et qui fait que les pénitents, lors du sacrement de la confession, doivent faire un sacrifice, un renoncement au mal pour naturellement obtenir un plus grand bien.
Alors, autre point commun entre les religions premières et les religions modernes au Don Valais, la sacralisation de la nature, qu'il s'agisse des animaux ou de la terre qui les porte. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, dans la plupart des religions premières, la terre est un élément féminin, assimilé à la mère nourricière. Alors que ce soit à l'autre bout de la terre, par exemple dans l'océan Pacifique, chez les Maoris ou les Hawaïens, ou plus près de nous, dans la Grèce antique, antique. Dans la mythologie grecque, en effet, c'est Gaïa, la terre, qui engendre tout, le ciel, les mers et les montagnes. En ce mythe grec, on le retrouve dans les Métamorphoses du poète latin Ovide. La terre, dit-il, est la meilleure des mers. Ovide fait même parler la terre. Par exemple, lorsque le dieu suprême abat sur la terre le feu et la sécheresse pour punir les hommes, eh bien, c'est leur mère, la terre, qui va implorer le dieu de pardonner à ses enfants et de faire revenir la pluie. La terre nourricière, écrit Ovide, épuisée par la sécheresse, porta la main à son front et s'écria « Ô Dieu suprême, vois ma chevelure brûlée, vois cet amas de cendres dans mes yeux et sur mon visage. Est-ce là la récompense que je reçois de toi pour ma fertilité et mes services, pour supporter les blessures que m'inflige la charrue, pour fournir au bétail les fourrages et les moissons au genre humain ?» « Ô Dieu suprême, veille à sauver l'univers », une prière de maman, on dirait, à laquelle le Dieu ne pourra pas résister. Alors, cette symbolique de la terre nourricière et maternelle perdure, même dans les grandes religions actuelles. Dans le Coran, par exemple, la fertilité de la femme est comparée à celle de la terre. « Vos femmes sont pour vous comme des champs », dit le Coran, hein, avec la part de passivité que tout ça peut supposer. Bon, bref. Alors, la terre donne donc la vie, mais c'est aussi à elle que l'on retourne au moment de mourir. « Va sous cette terre, ta mère », dit un hymne hindouiste, ou encore Job, dans l'Ancien Testament, déclare « Sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai ». Encore plus près de nous, dans le temps en tout cas, les Indiens d'Amérique du Nord vouent un véritable culte à la terre-mère. En 1900, par exemple, on trouve un texte de Big Thunder, le prêtre de la tribu des Wabanaki. « Le grand esprit est notre père, dit-il, mais la terre est notre mère, elle nous nourrit. Ce que nous plantons dans le sol, elle nous le retourne. Et c'est ainsi qu'elle donne les plantes qui nous guérissent. Quand nous sommes blessés, c'est elle qui nous guérit. » Alors, cette terre-mère, hein, sacrée forcément, est-ce qu'on ne la meurtrit pas par le travail, par le labour? Alors cette question, l'Indien Smohalla, en 1850, répond justement que pour ne plus la meurtrir, cette terre, eh bien, il ne faut plus travailler, il faut seulement rêver. Vous me demandez de labourer la terre, dit-il. Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère? Mais quand je mourrai, qui me prendra dans son sein pour me reposer? Vous me demandez de creuser pour chercher des pierres. Mais quand je mourrai, dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître? Vous me demandez de couper l'herbe, de la revendre et de devenir riche comme les hommes blancs. Mais, demande l'Indien Smohalla, comment oserais-je couper les cheveux de ma mère, la terre?
Le culte de la terre, voilà un mythe, et un culte qui a traversé le temps et toutes les religions.
Tout à fait. Elle est savante, Stéphanie. Elle aurait pu gagner le concours de poésie. Le concours de poésie aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, puisque le vainqueur s'appelait Stéphanos de Couronné de Laurier. Et effectivement, dans la mythologie grecque, Gaïa, c'est la terre-mère. Alors, ça se retrouve dans un très grand nombre de civilisations différentes. Et à l'inverse, le ciel est considéré comme un père. C'est la rencontre d'un ciel fécondant par la pluie avec une mère qui va faire germer des graines. D'ailleurs, en grec, hein, le dieu du ciel, c'est Ouranos, qui est le dieu de la pluie, qui a donné en français le mot urine, c'est la pluie fécondante. Mais dans certaines civilisations, comme au Japon, le ciel et le soleil sont plutôt au contraire féminins. Donc, malgré tout, il y a certaines différences dans ces symboliques, mais je dirais que dans les trois quarts des civilisations, la terre est maternelle, c'est un saint.
Oui, et avec les montagnes qui sont sacrées dans toutes les religions, vous citez le Fujiyama des Japonais, le Sinaï des Juifs et des Chrétiens, l'Olympe des Grecs, la Chomolunga qui est le toit du monde, l'Everest qui est la déesse mère des Tibétains, il y a aussi le dôme du rocher des musulmans, c'est assez extraordinaire. Puis il y a le culte de l'eau également, purificatrice dans toutes les religions. J'ai appris que le baptême par exemple chrétien, les conquistadors l'avaient découvert chez les Aztèques aussi en y arrivant au XVIe siècle.
Oui, le baptême n'est pas spécifiquement chrétien par sa forme. Le fait de se plonger dans l'eau est absolument universel pour toutes sortes de raisons. Quand les brahmanes hindous se plongent dans le Gange, c'est bien souvent pour se purifier, mais on peut aussi jeter les cendres du défunt pour qu'il ait une meilleure réincarnation. Et d'une manière générale, la plupart des civilisations et religions traditionnelles accordaient une grande importance à l'hygiène. Les premiers à ne pas se laver, ça a été les disciples de Jésus et ceux du Bouddha. Car Jésus a dit que ce qui était impur était ce qui venait du cœur de l'homme, et non pas ce qui venait de son corps. C'est pourquoi ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de passer à table. C'est exactement pareil pour les disciples du Bouddha qui considéraient que les purifications des brahmanes étaient inutiles. Entre nous soit dit, si vous allez au Tibet, croyez-moi, les t-shirts des moines ne sont pas toujours très propres.
Oui, mais alors justement, quand vous dites, Don Valet, que aujourd'hui l'hygiène avec le lavabo, c'est un héritage justement de ce culte de l'eau, quand même, c'est pas forcément pour des raisons religieuses aujourd'hui qu'on va se doucher ou qu'on va se baigner, c'est nous avons pour être propre.
Non, mais lavabo, c'est du latin, je me laverai, et c'est l'ancienne prière que prononçait au bas de l'autel le prêtre de l'Église catholique. Alors non, aujourd'hui, ça n'est pas forcément sacré de se laver, mais n'oublions pas que dans l'Antiquité, les religions sacralisaient un certain nombre de prescriptions hygiéniques pour les rendre obligatoires, parce que sinon, si c'était pas sacré, les gens n'auraient pas été se laver.
Alors, il y a quelque chose qui n'est plus du tout sacré pour les religions d'aujourd'hui, pour justement les peuples ou les civilisations profanes d'aujourd'hui, c'est la terre. La terre qui est, donc on ne respecte absolument plus comme on le faisait autrefois. Et on a le sentiment, en vous lisant, qu'au fond, la dernière héritière des religions premières, par le respect qu'elle a de la terre, c'est l'écologie.
Tout à fait, parce que l'écologie va essayer de conserver la terre et de la sacraliser dans ce but. On parle souvent des parcs nationaux comme des sanctuaires. Et quand vous regardez la carte des grands parcs nationaux, par exemple aux États-Unis, il s'agit de sites religieux des Indiens. Le parc du Yellowstone, celui du Yosemite avec les fameux séquoias géants qui étaient totalement sacralisés, ou des sites comme Monument Valley étaient autrefois des sites religieux pour les Indiens. Donc je pense que l'écologie aujourd'hui est une manière de sacraliser des sites naturels qui sont ce recours à la protection serait détruit par l'homme.
Mais de manière profane, c'est plus du tout religieux.
Il serait profané. Mais en même temps, il y a une espèce de spiritualité qui se dégage de la nature. Vous savez, j'ai fait de l'alpinisme assez souvent au Mont-Blanc, et dans cette procession des lampes frontales à 3 heures du matin qui montait vers le toit de l'Europe de l'Ouest, il y avait un caractère un petit peu religieux. De la même façon que lorsqu'on voit la procession des lampes de poche la nuit en allant au Fujiyama, au Fujisan au Japon, on a un sentiment religieux, d'autant d'ailleurs qu'il s'agit du sanctuaire de la déesse de la foudre Fuji. Je crois que la séparation entre le profane et le sacré n'est pas absolue. Je suis chaque année une étape du Tour de France du Dauphiné libéré. Quand on voit la foule des coureurs qui applaudit ses idoles, on a le sentiment d'un véritable culte du héros qui dépasse, je crois, le domaine du profane.
Merci en tout cas, Don Valet. Je rappelle donc, pour en savoir plus, que vous venez de publier chez Découverte Gallimard, L'héritage des religions premières. Vous avez pu entendre des extraits des films Agacuc de Jacques Dorfman, distribués en cassette par fil, de Little Big Man d'Arthur Penn, disponible chez CBS Fox Video, puis la Bible de John Ford, qui est également disponible en cassette. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique, Lydwin Caron, Anne Le Guéhennec, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de...